Radio Campus Paris présente la séance du dimanche. Au programme aujourd'hui, la filmothèque idéale de Vitamine Ciné. Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. Toujours à distance, toujours sans studio, l'équipe de Vitamine Ciné est réunie virtuellement, toujours pour parler de cinéma. Nous enregistrons cette nouvelle émission à la toute fin de l'année 2020, qui, on peut le dire, a été assez particulière. Au programme ce soir, nous commencerons donc par un retour sur les films qui nous ont marqués, en bien ou en mal, tout au long de l'année, avant d'enchaîner sur un traditionnel petit jeu cinéphile. Ensuite, nous allons établir notre filmothèque idéale, en tout cas pour chacun d'entre nous, et rendons à César ce qui appartient à Antoine Guillot, c'est une idée qui nous vient tout droit de l'excellente émission Plan Large sur France Culture. Enfin, nous concluons l'émission du mois en revenant sur la question des musiques de films, abordée en décembre dernier, avec un spécialiste de la question, Benoît Basirico. Et comme d'habitude, je suis très bien accompagné, puisque j'ai avec moi une fine équipe que je vais vous présenter sous le nom de présentateur célèbre. Tout d'abord, sa gentillesse est proportionnelle à son amour pour l'entretien de sa barbe, et on passe toujours un bon moment en sa compagnie. C'est le Kian Kojandi de l'émission Bonsoir Louis.
Et il y a la calvitie aussi en point commun. Salut Nico.
J'ai pas osé, mais j'y ai pensé. Ensuite, une personne que j'ai par le passé comparée à Hélène Ripley et Agnès Varda, et que ce soir j'introduirai sous la houlette d'Antoine de Maximi, puisqu'à l'heure où on enregistre, elle s'apprête à partir en expédition dans la Haute-Vallée de l'Aude. Bonsoir Adeline.
C'est pas dans les Carpates, mais ouais, la Haute-Vallée de l'Aude, même combat.
Enfin, il y a aussi une figure double, fruit d'un savant équilibre entre fin polémiste et brillant animateur de jeu. Il est moitié Julien Lepers, moitié Michel Pollack. Bonsoir Lucas.
Bonsoir, merci Nicolas. Enfin, je sais pas comment je dois le prendre. Merci quand même.
Et donc, installez-vous confortablement, réglez bien votre transistor ou votre enceinte connectée, et c'est parti pour la séance du dimanche. Et donc on va commencer tout de suite un petit retour sur l'an fatidique de 2020, avec un mot chacun pour définir cette année. Donc Adeline, est-ce que tu as un mot en particulier ?
Décevante. Et toi ?
Lucas, toi ?
Chaotique, es-tu déçu ? Toujours le chaos. Okay. Déçu, mais bon, on y reviendra tout à l'heure, il y avait quand même des choses à se mettre sous la dent. Donc évidemment que c'est une année très dure pour le cinéma, ouais. Mais il y avait quand même des choses.
Louis, toi tu as...
Peut-être streaming, hein, pour définir 2020.
Oui, je pense qu'on en parlera aussi. Moi, ça serait peut-être absurde parce que les cinémas sont restés fermés pendant 6 mois, ce qui était, je crois, jamais arrivé depuis le début de l'histoire du cinéma. Mais donc, justement, on va en parler assez vite parce que même si les cinémas ont été fermés, il y a eu des films qui ont été distribués, que ce soit en salle ou en streaming, donc, comme tu disais, Louis. Donc, quels sont les films que vous retenez de cette année ? Est-ce que vous avez un top, des flops ? Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement ?
Moi, je regardais tout à l'heure, c'est un peu difficile de faire un top, parce qu'en fait, tout le top se prépare sur le premier semestre qu'il y a eu de l'année, quoi. Et même pas, enfin, il y a très peu, enfin, il y a beaucoup de films, ça a été très riche, mais il y a des films un peu partout, et c'est difficile de vraiment établir un flop. Moi, j'ai mis le film qui m'avait le plus marqué, et on l'a vu ensemble, Nicolas, c'était juste avant le confinement. C'était La Communion, de Yann Komasa, qui est sorti, oui, juste avant le confinement, et qui n'est pas resté en salle longtemps, mais qui racontait l'histoire d'un homme, Daniel, qui se retrouve une vocation un peu spirituelle de devenir prêtre, alors qu'en fait c'est un ancien détenu, il a sûrement tué quelqu'un, et je trouvais que ce film était vraiment magnifique, il était très beau, la photographie était parfaite, les acteurs étaient parfaits, ça m'a beaucoup marqué, et voilà. Et toi ?
Moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé La Communion aussi, ça fait partie de mon top, si je devais en faire. Mais je pense que le film qui m'a le plus plu cette année, c'était Uncut Gems, des frères Safdie, qui n'était donc que sur Netflix, malheureusement, et pas en salle, mais qui est sorti à peu près à cette période, je crois, ou au tout début de l'année. Et pour La Communion, il y a aussi, je crois, le réalisateur a sorti un autre film cette année qui est sur Netflix. Est-ce que tu l'as vu, Lucas ?
Oui, qui est aussi dans mon top, avec La Communion. Donc ça fait quand même deux films de ce réalisateur-là dans mon top de cette année. Et oui, le film dont tu parles, il s'appelle Le Goût de la Haine. Et oui, je crois que c'est un film qui est sorti que sur Netflix. Et là aussi, on suit vraiment le parcours d'un seul homme, un peu comme dans la communion, c'est très centré sur un jeune homme aussi. Bon, une histoire assez, assez complexe que je ne vais pas développer ici, mais ça va encore plus loin que la communion dans son propos et dans sa violence aussi. Et je l'ai même préféré voilà, à la communion, donc je vous recommande ça fortement, Le goût de la haine.
Et toi, Louis ?
Bah, moi, je pense qu'en 2020, on a surtout pu découvrir ou redécouvrir des films plus ou moins classiques depuis chez nous. Enfin, moi, c'était mon cas. Mais il y a malgré tout des films sortis cette année qui m'ont marqué. Et comme Nicolas, je pense que mon top de 2020, c'est Uncut Gems, des frères Safdie, avec un Adam Sandler à contre-emploi qui joue magnifiquement bien sa partition. Un film très très bien réalisé qui nous maintient sous tension en permanence pendant tout le film. Et même des idées de mise en scène qui sont des très très belles idées. Je pense notamment aux scènes dans le sas d'entrée de la bijouterie qui symbolise en fait dans l'espace tout ce qui se construisait déjà dans le temps dans ce film, c'est-à-dire un concentré de tensions, d'enjeux. Je trouve que de ce point de vue-là, c'est un très très bon film et c'est celui que je mets en top film 2020 comme Nico.
C'est une scène finale de dingue où je me souviens qui dure je sais pas entre 5 et 10 minutes où j'arrivais à peine à respirer la scène pendant le match de basket. Enfin, on va pas trop. Ceux qui l'ont vu savent de quoi on parle, mais avec un final complètement cynique et dingue. Mais moi aussi, il fait partie de. Je crois que je l'ai mis deuxième. Enfin voilà, moi j'ai carrément fait un classement de 1 à 10, mais Uncut Gems. Alors, mon premier, ce serait Adolescente. Voilà, j'en ai déjà suffisamment parlé de Sébastien Lipschitz. Son petite fille est aussi dans mon classement. Et j'ai trois documentaires en fait dans mon classement. Donc il y a ces deux-là et La Cravate qui était sortie en février, je crois, janvier-février. Où là aussi j'en avais parlé, mais donc trois documentaires français. Donc comme quoi,
mais
il y a aussi de très bonnes choses.
Faut dire que c'était une belle année, riche en bons et très bons documentaires, je trouve. On avait bien commencé l'année avec, bah, comme tu l'as dit, La Cravate qui est sortie début janvier, je crois, et que tu avais déjà recommandé dans notre première émission. J'aimerais bien parler d'Histoire d'un regard aussi, de Mariana Otero. C'est un documentaire sur où elle retrace en fait la vie du photojournaliste Gilles Caron, mais à travers ses photos. C'est-à-dire qu'elle développe les clichés, et en fait elle mène son enquête à partir des photos pour essayer de retracer un peu la vie de cet homme, mais aussi de mieux capter son regard qui était très singulier. Donc je trouvais que c'était un très beau documentaire aussi sorti en janvier. Il y a eu donc Des Hommes aussi. Des Hommes dont on avait parlé, pareil, je crois que c'était une recommandation dans une de nos premières émissions. Donc un documentaire en immersion dans la prison des Baumettes de Marseille. On a eu les deux documentaires de Sébastien Lipschitz. Donc là, on a été vraiment gâtés par ce réal. Et puis, Petite Fille qui est toujours disponible sur Arte. Arte qui nous a régalé encore cette année. Je pense à un documentaire là aussi qui est disponible sur Arte, c'est Kubrick par Kubrick, qui a été fait à partir d'archives sonores, donc c'est toujours intéressant comme matériau. On sait que la parole de Kubrick, elle est plutôt rare, et là, à partir d'enregistrements, d'entretiens qu'il avait réalisés avec Michel Simon, le critique de cinéma, ils arrivent à construire un documentaire dans lequel Kubrick se raconte. Ils essayent de mettre un peu visuellement, un peu en image, ces sons et cette parole qui est très rare, et j'ai trouvé que le documentaire était intéressant, donc une belle année. Ça m'étonne pas que t'aies trois documentaires dans ton top, parce que c'était vraiment une belle année documentaire, je trouvais.
Et encore, j'ai pas vu le dernier documentaire de Wiseman, qui est malheureusement sorti pile quand les cinémas ont refermé, mais il paraît que voilà, c'est un très bon Wiseman, donc sur la mairie de Boston, sur 4 heures sur la mairie de Boston, donc il me tarde de voir ça dès que tout reviendra normal, mais pourquoi pas un quatrième documentaire donc dans ce top 10, quoi.
Et sinon, Adeline, tu parlais aussi de déception pour cette année. Du coup, est-ce que vous avez il y a eu des films qui vous ont déçu ou qui vous avez trouvé particulièrement mauvais?
Bah après, c'est un peu triste de dire déception alors qu'on a eu si peu de films, mais bon, finalement, sur 100 films, alors moi j'ai regardé un peu une liste sans critique de 100 films qui étaient sortis dans l'année parce que j'arrivais pas vraiment à me souvenir de tout ce qu'on avait vu. Mais finalement, en fait, il y a pas mal de déceptions. Alors des déceptions qui pouvaient être attendues de mon côté, par exemple Tenet, où je suis pas une grande fan, mais c'est vrai que c'était une petite déception. Mais moi, j'ai pensé notamment à un film qui m'a vraiment marqué en mal, c'est T85 de François Ozon, qui à mes yeux est vraiment un amas de clichés qui vont pas ensemble, etc. Et c'est vraiment un film qui m'a notamment choqué parce que beaucoup de gens ont aimé ce film. Et donc, du coup, ça n'a pas fait consensus non plus sur le fait que c'était nul, comme ça a pu faire, enfin, comme 1917 a pu faire consensus chez nous sur le fait qu'on n'avait pas aimé. Mais je pense vraiment que, ben voilà, l'été 85, c'est un peu un loupé, alors que moi, par ailleurs, j'aime beaucoup Ozon. Et donc, j'étais un peu déçue parce que c'était un film qui pouvait notamment sauver le cinéma français pour l'été par rapport au confinement, etc. Et vraiment, c'est une petite déception parce que je pense que moi, j'en ai pas fait un très bon écho, par exemple.
Et en dehors des déceptions, est-ce que vous avez des espoirs pour 2021, peut-être ?
Bah déjà, c'est les films qui n'ont pas pu sortir. Je pense par exemple au film qui était sélectionné au Festival de Cannes, le film de Paul Verhoeven et de Wes Anderson. Rien que ça, qui normalement devrait sortir cette année, mais qui était quand même les... En tout cas, le film de Verhoeven, c'était la grande promesse de 2020. Donc ça, c'est mon principal espoir pour 2021. Mais non, sinon, l'espoir principal, c'est que les salles rouvrent, c'est tout. Ce serait déjà très bien.
C'est ça.
Mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
C'est que maintenant, en fait, on peut tellement pas faire de com que du coup, on sait plus... Enfin, il y a tellement peu de com sur les films qui vont venir, tellement il y a un peu une incertitude qu'on n'a plus vraiment d'attente. Enfin, par exemple, le film de Wes Anderson, moi, je l'avais oublié. Enfin, vraiment, juste, t'as l'impression qu'il est passé, qu'on l'a raté, et puis voilà. Je regardais sur les listes, il y a même des films qui mériteraient de ressortir, comme Drunk, qui n'ont pas vraiment fait une vraie campagne au cinéma. Et en soi, bah c'est trop tard. Il y a des films vraiment Darkwater, je l'ai pas vu et je me suis dit c'est fou parce que ce film on l'a juste raté à cause du fait que on n'ait pas eu le temps de pouvoir en profiter quoi. Donc vraiment moi mes attentes c'est juste laisser les films vivre au cinéma et vivre leur vie quoi.
Bon, en tout cas c'est vraiment ce qu'on souhaite. Et Darkwater, juste petit mot, je l'ai vu, il fait partie de mon top. C'était un incroyable film de Todd Haynes. Qui, oui, est passé un peu inaperçu, comme beaucoup de films sortis, malheureusement, cette année, avant le premier, le deuxième confinement, les couvre-feux, etc. Et tout de suite, pour être un peu plus réjouissant, on va passer au jeu cinéphile.
Nous allons jouer à un jeu.
Ah, not a chance.
Pour arrêter avec les jeux, la dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre.
One, two, three.
Je vous propose un autre jeu, plutôt. Vous connaissez un jeu auquel je gagne toujours.
Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu.
Je peux perdre, mais je gagne toujours.
But don't play with me, 'cause you're playing with fire.
Et donc Lucas, c'est toi qui vas t'occuper, encore une fois, d'être le host de ce jeu, avec un nouveau concept, je crois.
Tout à fait, un nouveau concept qui n'est pas de nous, hein, qu'on a piqué je ne sais pas où d'ailleurs. Mais en gros, je suis allé sur le site d'Allociné, à la recherche de critiques internautes, mais donc évidemment des critiques très négatives. Donc sur Allociné, on peut mettre une note de 0,5 à 5 étoiles. Donc j'ai pris sur certains films des commentaires d'internautes qui ont mis 0,5, donc la pire note possible. Je vais vous lire leurs critiques et vous allez devoir me trouver le nom du film. Évidemment, dans chaque critique d'internaute, il y a des petits indices qui doivent vous mettre sur la piste. Alors, je pense qu'on va pas compter les points, ça sert à rien, c'est vraiment pour s'amuser. De toute façon, vous allez voir qu'il y a des vrais poètes hein, sur le ciné. Donc, je crois que j'ai sélectionné 6 films. On commence avec le premier. Un des films les plus nuls de tous les temps. Il est plus facile de faire un film comme ça que d'éduquer les gens, leur faire comprendre que des animaux assoiffés de sang et acharnés contre l'homme, ça n'existe pas. Un grand pas en arrière pour l'humanité. Merci Spielberg.
Jurassic Park.
Et non. Ah. Un autre film de Spielberg.
Jaws,
Les Dents de la Mer.
Les Dents de la Mer, évidemment. Évidemment, alors on sait à quoi il fait référence, hein, c'est que ce film aurait donné une très mauvaise image des requins. Alors que bon, il y a finalement très peu d'espèces qui sont dangereuses pour l'homme, donc voilà, c'est pour ça qu'il a pas aimé. C'est intéressant. Hein. Alors, deuxième film. Attention, c'est... Il y a peut-être des mots un peu... Voilà. Ce film est une merde incroyable. Les premières secondes, l'écran noir, j'ai cru que mon lecteur buguait. Ensuite, pendant 20 minutes, une espèce de planète des singes sans les paroles.
2000 ans, c'est de la
singe. Oui, évidemment. Évidemment, le planète des singes qui vous met sur la voie. Je vais même pas lire la suite du commentaire. Parce que
c'est énervant.
Troisième film. Palme d'or. Voilà qui est incompréhensible. Qu'est-ce qui a bien pu passer dans la tête du jury cannois et de son président, Pedro Almodovar, un des plus grands réalisateurs de son époque? Voilà un film où les protagonistes sont plus antipathiques les uns que les autres, les pauvres sont odieux, profiteurs, manipulateurs, sales. C'est Parasite, évidemment. Alors ce qui est marrant avec ce truc, c'est qu'il dit que le président du jury canois à cette époque était Almodovar, c'était pas du tout lui, d'ailleurs il avait un film en compétition, donc ça m'étonnerait que ce soit lui. C'était Inaritu. Mais bon, bien joué, tu as trouvé la réponse alors qu'il y avait un petit piège, donc bravo.
Quel
à toi.
Racisme anti-hispanique.
Troisième film, quatrième film même. Un des films les plus nullissimes que j'ai vu. Le film est tout éparpillé entre plusieurs histoires qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et qui n'ont vraiment aucun intérêt.
Babel.
Entre la bourgeoise camée et des sadomasochistes. Ce film est la daube du siècle, en aucun cas un film culte. Non, ce n'est pas Eyes Wide Shut.
Vie de chien,
Non.
L'autre film de... Non, d'Iñárritu.
Non.
Magnolia.
Non. Plusieurs histoires. Ouais, vous êtes. Je comprends là vos réponses. Plusieurs histoires. Love Actually. Rien à voir. Comment?
Love Actually.
Non. Une bourgeoise camée et des sadomasochistes dans une cave.
Dans une cave.
Alors il dit que les petites histoires n'ont rien à voir entre elles, ce qui est pas vrai. C'est juste qu'elles sont mélangées.
Ah, Pulp Fiction.
En soi, c'est Pulp Fiction.
Ah, waouh.
Attention, le prochain, c'est de la poésie. Et on remercie son auteur qui a signé Samir Dekil. Donc, merci Samir Dekil, un vrai poète. C'est con.
Dédicace.
C'est con, on ne peut pas mettre zéro. Ce film est d'une nullité titanesque. Ici, c'est pour mater des femmes se brouter la moule pendant 3 heures.
La vie d'Adèle.
La vie d'Adèle.
Ah, quel poète.
La dernière phrase, hein. Palme d'or, ils ont craqué là le cinéma français. Le pire en pire de la vraie merde. Merci monsieur Dekil. Avant-dernier film. Je reste dubitatif de ce film. On en fait un foin pas possible. Il ferait partie des plus grands films sur le Vietnam. En fait,
Apocalypse Now.
Non. En fait, il est d'une longueur pas possible. Voyage au bout de l'enfer. Évidemment. Bon, la critique était basée sur le fait que c'était chiant. Voilà, c'est tout. 3 heures pour lui, c'était trop. Et sur ce film, d'ailleurs, j'ai vu énormément de critiques sur le fait des transitions entre les grandes parties. Mmh. Alors que c'est évidemment l'une des forces du film, notamment avec la scène du billard, mais bon, tant pis. Et enfin, dernier film, celui-ci, je l'aime bien. Mon nom est juste, on peut alors facilement comprendre pourquoi je n'aime pas ce film.
Un dîner de con.
Dîner de con.
Mais je peux finir la critique parce que ça a l'air savoureux.
Le pauvre.
Donc attends, mon nom est juste, on peut alors facilement comprendre pourquoi je n'aime pas ce film, et surtout, les blagues que les gens me sortent chaque jour en référence à ce film que je trouverais drôle sans cette réplique cultissime. Donc voilà un message de Happy Screaming qui n'aime pas ce film à cause de ça, apparemment il fait des vannes là-dessus. Voilà, c'est tout pour ce jeu.
Bah, je suis très très fan de ce jeu, je dois le dire.
Bravo.
Bon, on le refera alors.
Et donc on va passer tout de suite au gros morceau de l'émission, parce que ça va être notre filmothèque idéale. Donc il n'y aura pas de zéro étoile ou de merde titanesque pour citer les grands poètes d'Allociné. Ça va donc être la filmothèque idéale de Vitamine Ciné, qui en creux va peut-être révéler nos différents goûts personnels, nos personnalités en matière de cinéma. Et pour cette partie, je passe à Adeline ma veste de présentateur. Et je précise qu'on avait des questions donc en avance chacun, que Adeline avait préparées, mais qu'on ne connaît pas les réponses des autres et qu'Adeline ne connaît pas nos réponses. À toi, Madame Boula.
Merci beaucoup, Monsieur Santalestria. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette émission Thé au Café, présentée par Catherine Seilac, qui s'est terminée en 2018. Mais dans celle-ci, les personnalités, publiques ou non, étaient amenées à se livrer à un dos à dos. Donc, le dos à dos, c'est une sorte de portrait chinois d'une personne. Donc, le portrait chinois, c'est un jeu où vous dites, par exemple, si vous étiez un arbre, qu'est-ce que vous seriez? Moi, par exemple, si j'étais un arbre, je serais un seul pleureur. Et du coup, on va essayer de faire un portrait chinois qui va établir notre portrait du cinéphile idéal. Donc si vous étiez un film, Louis, tu serais quoi ?
Si j'étais un film, je crois que je serais Patterson de Jim Jarmusch, parce que c'est un film délicat, comme moi. Non, et un film duquel surgit en fait toute la poésie du quotidien, des habitudes, donc je me retrouve beaucoup dans ce film, donc je pense que je serais Patterson.
Et toi, Lucas ?
Moi, je serais Mélancolia. C'est vraiment le premier film qui m'est venu à l'esprit à cette question, parce que c'est un film à la fois hyper violent, mais en même temps hyper, je sais pas, pas doux, mais enfin voilà, on a du mal à mettre des mots là-dessus. C'est le film parfait, quoi.
Et toi, Nico ?
Je te rejoins, Lucas, aussi pour le film que j'ai choisi, parce que un film que je considère peut-être comme parfait, qui véhicule beaucoup d'émotions qui sont difficiles à décrire, c'est L'été d'une fois en Amérique de Sergio Leone, qui s'étale sur toute une vie. Et donc voilà, c'est vraiment le film qui m'est venu à l'esprit pour me définir. Donc, c'est bizarre de se définir avec des films, mais pour l'instant, c'est ça qui me vient à l'esprit.
Et si vous étiez un réalisateur ou une réalisatrice, vous seriez quoi ? Par exemple, toi, Lucas.
Moi, je serais, sans surprise, Henri-Georges Clouzot, parce que voilà, j'aime tout. C'est ce mec, et surtout, il a la vie la plus incroyable du cinéma français, je crois. Un parcours de sa naissance jusqu'à sa mort qui est incroyable, mais aussi en passant surtout par la période continentale pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis voilà, enfin, un réalisateur trop sous-estimé pour moi, alors que incroyable.
Et toi, Louis, tu serais qui ?
Eh ben, je pense que je serais Jean Cocteau, pour la finesse d'écriture, toute la poésie qu'il met dans ses films. Et je pense que comme lui, je partirais de contes et de mythes pour écrire de très beaux films et réaliser de très beaux films.
Avec des belles actrices et des belles acteurs ? Et des belles acteurs, des beaux acteurs, désolé. Tu serais qui comme acteur, Louis ? Ou une actrice.
Et ben là, je serais sûrement dirigé par Nicolas, parce que je serais Joe Pesci pour jouer souvent ou régulièrement avec Robert De Niro dans les meilleurs Scorsese, tout en restant un éternel second rôle, un petit peu en retrait, mais qui apporte toujours un personnage haut en couleur. Donc ouais, je pense que je serais Joe Pesci.
Second rôle ou premier rôle Nicolas.
Moi, j'ai choisi Philippe Noiret, vous pouvez vous en douter pourquoi, car j'adore cet acteur, car il a une certaine bonhomie, une certaine francité qui se dégage de Louis. Et je dois dire que j'ai hésité avec Yves Montand aussi, car c'est un acteur dont je découvre la filmographie en ce moment, notamment avec Le Seigneur de la Peur de Clouzot, qui était un des meilleurs films que j'ai découvert cette année.
Et je crois que sur Noiret, il a une super mémoire à retrouver à la Sorbonne, non ? C'est ça, en salle 19, il me semble.
Je crois en salle 19 du bâtiment Paris 2. En effet, dans une sorte de cave.
Toi, tu serais Robespierre, Lucas ? Si tu devais être un acteur.
Non, j'avais hésité avec, déjà d'une part, Naomi Watts, parce que bon, je suis amoureux d'elle, donc forcément. Mais non, puis j'ai mis Michel Piccoli, parce que j'aime beaucoup à la fois sa discrétion, mais en même temps, comment il arrive à être imposant dans les films. Voilà, Michel Piccoli, qui nous a quittés cette année en plus, donc l'occasion de lui rendre un hommage de plus.
Et tu me permets de rebondir parfaitement, puisque Michel Piccoli s'est illustré dans de nombreux genres, les comédies et les drames. Et toi, Nicolas, si t'étais un genre, tu serais quoi ?
Alors, je viens de voir ma réponse qui était « je ne sais pas », car les genres ne sont pas importants au cinéma.
Les genres ne sont pas importants pour toi ? Tu penses qu'on peut...
Oui, je trouve ça un peu inutile de classer vraiment les films par genre, alors comédie, drame, comédie dramatique, avec ce nom qui ne veut rien dire, comédie dramatique. Et j'ai l'impression que mes films préférés sont des films qui abordent plusieurs genres et pas qu'un seul.
Je suis d'accord, donc, j'ai eu cette même non-réponse.
Et tu penses, toi aussi, Louis, que les films sont pas plus autant codifiés qu'avant ?
C'est vrai. Après, pour quand même rester dans un genre très codifié, je pense que je serais une comédie musicale pour accompagner chaque événement de ma vie d'une chanson.
Très surprenant comme ma vie, Louis. Autre question pour rétablir votre portrait. Si vous étiez un méchant de cinéma, alors je sais qu'il n'y en a pas beaucoup dans les comédies musicales, mais il y en a quand même. Tu serais un méchant gentil, toi, Louis ?
Je sortirais peut-être pas d'une comédie musicale, mais plutôt de l'esprit de Kubrick. Je pense que je serais Jack Torrance, un écrivain un peu en panne d'inspi qui sombre doucement dans la folie. Ouais, je pense que ce serait ça.
Et toi, Nicolas, est-ce que tu serais... dans la folie ou plutôt dans l'horreur ?
Peut-être un peu pour rebondir aussi sur la question précédente. Je trouve que les bons méchants ne sont jamais à 100%. Là. Il y a des tops un peu absurdes de magazines américains qui citent Thanos ou je ne sais quelle pitrerie. Mais j'ai choisi le prof de Whiplash, qui n'est pas un méchant, mais vraiment un antagoniste incroyable. Donc voilà, j'adorais être ce brave, j'ai oublié son nom, le nom de l'acteur.
J.K. Simmons.
Ce brave J.K. Simmons qui a une tête un peu de chien, un peu hargneux et méchant, mais qui au final, on le comprend un peu comme dans la détermination qu'il a, qui arrive à faire triompher son élève. Donc voilà, j'adore le prof de Whiplash.
Et toi, Lucas ?
Moi, je serais la sangria dans Climax. Voilà, on ne peut pas en échapper, elle est invisible, elle est tenace, elle est atroce. Voilà, c'est parfait. On ne peut pas y échapper.
Moi, je pense que je serais Christopher Lloyd dans le film sur les Looney Tunes, qui est Qui veut la peau, de Roger Rabbit. On continue, avec du coup toujours sur un peu un décalage, puisque c'est la musique de film. Donc pour vous, si vous deviez être une musique de film, vous seriez quoi ? Par exemple, toi, Lucas ?
Je serais The Ecstasy of Gold, Ennio Morricone, avec laquelle on a ouvert l'émission précédente. Dans la musique de La Bon, La Brute et le Truand. Magnifique.
Bah, j'avais choisi aussi une musique d'Ennio Morricone, qui est Le Clan des Siciliens. Je sais pas pourquoi, c'est pas ma préférée, mais c'est la première qui m'est venue à l'esprit. Ouais. Et qui, je trouve, thématiquement et émotionnellement, rejoint assez... Il était une fois en Amérique.
Un Morricone, deux Morricone. Est-ce qu'on aura un troisième Morricone ?
Et non, pas de Morricone, mais du Paul Ducasse avec l'apprenti sorcier, qu'on retrouve dans une scène de Fantasia. Une musique très enjouée dans l'ensemble, qui commence calmement et qui s'emballe progressivement jusqu'à trop s'emballer, laisser place au doute et à la panique. Donc je crois que ça me correspond un petit peu.
D'ailleurs, je pense que Fantasia, c'est une des musiques de films qui est le plus jouée dans les salles, dans les orchestres. Et donc, ça me donne une transition toute trouvée pour te demander encore une fois à toi, Louis, si tu étais une salle de cinéma, qu'est-ce que tu serais ?
Je pense que j'aimerais bien être une salle de cinéma du Quartier Latin, une salle d'art et essai du Quartier Latin, pourquoi pas l'école Cinéma Club, pour quelque chose de très intimiste et retrouver plein de passionnés de films classiques. Donc, je pense que ce serait ça.
Je comprends. Et toi, Nicolas ?
Moi, je serais le cinéma Les Variétés à Marseille, qui a été rénové il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, juste avant le premier confinement. Mais c'est une superbe salle où j'ai découvert pendant des années beaucoup de classiques du cinéma. J'ai tellement vu de beaux films là-bas, et c'est une salle assez intimiste, assez petite, sans pop-corn à l'entrée, avec des prix très abordables pour les étudiants ou les lycéens. Donc voilà, je serai cette salle de cinéma.
Moi, très cinéphile. Moi, j'avoue, j'ai mon petit top 3 des salles de cinéma. Je pense que ma numéro 1, ce serait la Cinémathèque de Toulouse, qui est une des meilleures salles où j'ai passé mes plus belles siestes et mes plus beaux films et mes plus beaux moments. Après, il y aurait, comme toi, Nicolas, mon cinéma d'enfance, c'est-à-dire le cinéma municipal de Sigean. Et peut-être en dernier, et ça c'est plus symbolique, je pense que j'y suis allée qu'une seule fois dans le cinéma, mais je pense que le Grand Rex, c'est une des salles où les gens ont leurs premiers émois cinématographiques, et je pense que c'est vraiment une très belle salle où, surtout pour les enfants, on y passe les meilleurs moments. Pour continuer de parler de plaisir, si vous étiez une scène d'amour...
Et donc moi, la première scène qui m'est venue à l'esprit, qui est vraiment une scène d'amour dans le sens amoureux, c'est une certaine apparition dans une chambre d'hôtel dans Vertigo, qui est assez fantomatique, qui est sur une des plus belles musiques de cinéma, qui s'appelle Scène d'amour, de Bernard Herrmann. Et donc c'est ça qui m'a vraiment frappé l'esprit. Sinon, je pensais aussi à une scène d'un homme et une femme qui m'est venue à l'esprit, je ne m'en rappelle plus énormément, mais c'était une scène très tendre entre Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé. Voilà, sinon j'en ai d'autres en tête, mais je vais peut-être te laisser parler, Lucas.
Moi, il y a une scène d'amour qui m'a vraiment marqué, c'est celle d'Inherent Vice, même si le film m'a pas totalement convaincu. En tout cas, il y a une scène d'amour, je crois, au milieu du film, entre Joaquin Phoenix et Catherine Waterston, qui est, enfin, d'une tension incroyable. C'est un plan séquence. Je sais pas s'il y a du vrai amour entre les deux personnages, mais en tout cas, l'image, c'est ultra fort. Et ouais, enfin, comme j'ai dit, une tension un peu malsaine. Donc voilà, dans Inherent Vice.
Et moi, j'étais en train de réfléchir à la question pendant que je voulais poser. Et j'ai revu une scène dans Baiser volé de Truffaut, qui est une scène d'amour qui n'est pas vraiment une scène d'amour entre Delphine Seyrig et du coup Antoine Doinel, Jean-Pierre Léaud.
puisque nous aimons tous les deux ce qui est exceptionnel. Voilà. Je viens là, près de vous, maintenant. Nous restons ensemble pendant quelques heures. Et ensuite, quoi qu'il arrive, nous ne nous revoyons plus jamais. D'accord ?
Si vous étiez un film avec Gérard Depardieu, lequel seriez-vous ? Je ne sais pas si c'est bien français, mais c'est pas grave. À toi, Louis.
Ben moi, je serais Saint-Amour de Kervern et Delépine pour faire la route des vins de France avec ce bon vieux Gérard.
Et toi, une route des vins, Nicolas ?
Alors, pas une route des vins, mais une route spirituelle. Parce que j'hésitais entre deux films, pour tout vous avouer. Mais le premier qui est venu à l'esprit, c'est Sous le soleil de Satan, où notre GG National joue un prêtre totalement habité. Et je pense que c'est le premier film dans lequel la prestation de Gérard Depardieu m'a vraiment marqué. Sinon, je pensais aussi à 1900, qui est vraiment... où on voit GG grandir un peu comme dans Il était une fois en Amérique, parce que c'est un film de 5 heures, qui s'étale sur toute une vie. Donc voilà, il y a ces deux films dans lesquels j'aimerais être Depardieu. Mais j'aimerais être Depardieu tout court, en fait.
J'aimerais. Ah oui. Et toi, Lucas, t'aimerais être Depardieu ?
Bah, je l'aimerais, en tout cas, dans le film Danton, sauf la scène finale, quoi. Mais, pas simple, hein, n'empêche d'incarner Georges Danton, surtout face à un Robespierre qui, lui aussi, est énorme. J'ai oublié le nom de l'acteur polonais qui l'incarne. Mais en tout cas, ça n'étonne personne, mais Depardieu y arrive à merveille.
Bah, je pense que ce serait le dernier métro. Encore une fois, j'ai écouté un extrait la dernière fois et je trouve que c'est vraiment un film où il est très touchant et sa partition avec Deneuve est très belle. Donc encore Truffaut et encore un extrait que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps. Donc vraiment, Gérard, si tu nous écoutes, on t'aime très très fort. J'espère que tu vas bien.
D'ailleurs, on l'avait un peu encensé lors de notre émission sur les stars de cinéma. On avait tous conclu dans commun accord cet été que c'était le plus grand acteur de tous les temps, tout simplement.
Peut-être pas de tous les temps, il est juste en dessous de Michel Blanc à mes yeux, mais il était quand même là. D'ailleurs, en parlant de Michel Blanc, et je pense à la super bande originale des Bronzés font du ski. Et donc, peut-être, si j'étais une bande originale, je serais la bande originale des Bronzés font du ski. Et toi, Louis, tu serais quoi comme bande originale ?
Moi, je pense que si j'étais une bande originale, je serais celle de Taxi 4, pour avoir... des sons de rap bien nuls qui viennent un petit peu partout, mais un petit peu de Marseille aussi. Et ouais, je pense que je serais dans le cliché total de la bande originale de Taxi 4.
Et pourquoi pas Taxi 5, parce qu'il y a Jules dedans.
C'est vrai, ton amour envers. Pour tout avouer, j'ai hésité entre les deux, mais j'étais plus marqué par Taxi 4 quand même. Et il y a pas que du rap, il y a Pump It aussi, des Black Eyed Peas pour lancer le film, donc un peu plus complète. Ouais.
Et toi, Nicolas ?
J'ai choisi Brésil, parce que son thème principal m'est rentré dans la tête vraiment la première fois où j'ai vu le film. Pendant des mois, j'avais cette musique entêtante dans la tête et je la trouve incroyable. C'est très étrange, très bizarre, mais voilà, c'est Brésil, c'est Terry Gilliam, quoi.
Et toi, Lucas, tu as le dur choix de trancher entre Taxi 5 et Brésil. Quel sera ton choix ?
Ouais, bah pour le coup, rien à voir, mais celle d'Under the Skin de Michael Levy. Voilà, une BO à écouter en rentrant le soir, tard dans la nuit, chez soi.
Une BO à écouter dans notre dernier épisode, notamment.
Oui, dans une des compositions, effectivement.
Alors, parlons un peu de Noël et des fêtes, puisque je pense que vous, comme moi, avez beaucoup bien mangé pendant ces fêtes. Et donc, si vous étiez une scène de repas, laquelle seriez-vous ? À toi, Lucas.
Ah bah, je serais celle des tontons flingueurs, bien sûr, la scène du repas des tontons flingueurs, voilà, parce que c'est quelque chose qui m'arrive tous les week-ends, sans les dialogues de Michel Audiard, malheureusement. Mais non, c'est trop fort.
Tu sais pas ce qui me rappelle ? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Biennois, pas tellement loin de Saligon. Les volets rouges et la tôlière, une blonde comaque. Elle s'appelait, nom de Dieu ?
Lulu la Nantaise.
T'as connu ? J'ai trop un goût de pomme.
Il y en a.
Ben, c'est devant chez elle que Lucien de Cheval s'est fait dessouder.
Et par qui ?
Hein ? Ben voilà que j'ai plus ma tête.
Par Teddy de Montréal. Un fondu qui travaillait qu'à la dynamite.
toi, Nicolas. Est-ce que toi aussi, tu aurais été les tontons flingueurs?
Non, mais j'aurais été un film de la même époque qui est Viridiana de Luis Buñuel, dont toute la dernière moitié, peut-être un peu moins, en tout cas dans mes souvenirs, est une scène dantesque de nourriture. Ça déborde de partout, ça annonce vraiment la grande bouffe. En peut-être un peu moins dégueulasse, mais en vraiment incroyable et excentrique. Donc c'est une scène de repas géniale, carnavalesque.
Est-ce que tu serais aussi carnavalesque, Louis ?
Moi, je serais plutôt du côté de Lucas, parce que ça serait un repas de mafieux. Ce serait le repas chez la mama dans Les Affranchis, avec les pâtes bolognaises suivant la recette et d'ailleurs de Catherine Scorsese, la mère de Martin Scorsese, et qui joue d'ailleurs la mama dans cette scène. Voilà, petit repas auquel on peut échapper, et on ressort toujours le ventre rempli de table. Donc, c'est mon choix.
C'est vrai que c'est très tentant.
Alors moi, c'est assez rigolo. C'est pas du tout une scène qui me donne très envie de manger, mais en préparant cette émission, j'y réfléchissais, et je pense que la scène de repas qui m'a le plus marqué, c'est dans la vie d'Adèle. Il y a un moment où Adèle Exarchopoulos mange un kebab, et vraiment, elle pleure et elle mange ce kebab, et je crois que c'est une scène de bouffe qui m'a le plus marqué, parce que vraiment,
Scènes de bouffe dans les kéchiches, c'est souvent quelque chose.
Si tu étais, attention, je parle à toutes les personnes qui ont fait du sport pendant le confinement, une scène de sport dans un film, laquelle serais-tu, Nicolas ?
Alors tu parles à toutes les personnes qui ont fait du sport pendant le confinement, mais je n'en fais pas du tout partie. Mais j'ai quand même réussi à trouver, malgré ma non-attirance pour le sport, une scène qui m'a vraiment marqué en tant que sport, c'est la scène de waterpolo dans Palombella Rossa. Il y a beaucoup de waterpolo dans ce film de Nanni Moretti, où tout le monde s'arrête de jouer au waterpolo pour regarder le docteur Jivago à la télé. Donc voilà, c'est des gens qui font du sport, mais qui sont pas non plus à fond dans ce sport. C'est un sport rigolo, je trouve. On parle jamais de waterpolo.
Et on comprend mieux, du coup, les petits emojis waterpolo que tu glisses dans les conversations de Vitamine Ciné.
Ne révèle pas trop les coulisses de l'émission, attention.
Et toi, quel emoji serais-tu si tu étais en sport, Louis ?
Moi, je serais un emoji boxe dans Rocky, dans les Rocky, dans Raging Bull, parce que voilà, l'histoire de la boxe, enfin, le procédé de la boxe, c'est simple, c'est universel. On prend des coups, on se relève, on se dépasse, donc c'est toujours très efficace. Je serais la boxe.
Et toi, Lucas ?
Moi, il n'y aurait pas d'émoji, parce que c'est un sport qui n'existe pas, malheureusement. Mais c'est le sport qu'il y a dans Steak, de Quentin Dupieux, dans lequel les personnages jouent une sorte de baseball mêlé à du calcul mental, et voilà, où il faut se foutre des coups de batte de baseball dans le ventre. Donc ça me plaît. Il faudrait vraiment que je m'y mette.
Ok. Le mystère. Et 115-15. Ok, on se remet en place. Allez!
Si vous étiez une filmographie, vous seriez quoi? Je sais que je vais poser une question à celui qui a le plus de coffrets ici, et je pense que c'est Nicolas, donc tu serais la filmographie de qui?
La filmographie de quelqu'un dont je n'ai aucun film en DVD ni en Blu-ray, mais une personne qui m'a assez attiré, c'est Paul Thomas Anderson, dont parlait Lucas tout à l'heure. Mais il est relativement jeune, il a fait une œuvre très complète, pas qu'on sortira son prochain film, ni s'il va en sortir dans les années qui viennent.
Si, c'est en tournage avec Bradley Cooper, ah, oui, d'ailleurs. Une sorte de teen movie, si j'ai bien compris.
Et toi, Lucas, t'es un gros fan de Paul Thomas Anderson aussi, mais...
Ouais, j'aime beaucoup, filmographie très, très très propre, et filmographie parfaite aussi pour moi, c'est celle d'Elatif Kechiche, qui, voilà, de A à Z, a abordé des thématiques qui me parlent d'une façon virtuose. Voilà, c'est parfait.
Et moi, je serais là, plus classiquement, la filmographie de Monsieur Stanley Kubrick, puisqu'elle est... Elle est limitée, elle est parfaite, il vient voyager un petit peu dans chaque genre, donc... Je pense que je serai la filmographie de Kubrick.
Moi, je vais rejoindre Nicolas pour le meilleur réalisateur. Je pense que moi, je serai la filmographie de Martine pour le côté protéiforme et avec toutes les différentes facettes qu'il a pu trouver. Je pense que vraiment, je serai Martine Scorsese à choisir. Et enfin, et pour cette fois-ci, je dis bien enfin parce que c'est bien la dernière question. si vous y étiez, alors cette année ça n'a pas eu lieu, mais j'espère que ça aura lieu l'année prochaine, une palme d'or à Cannes, vous seriez laquelle? Et cette question, elle est pour Lucas en premier.
Je serais Paris, Texas, de Wim Wenders. Je n'ai pas vraiment d'argument à dire, j'aime juste bien l'ambiance générale du film et cette scène finale, je sais pas, d'une vingtaine de minutes, complètement incroyable. Voilà, Paris, Texas.
Je serais tout à fait la même palme d'or que Lucas, du coup.
J'étais sûr.
C'est l'un de mes films préférés, et puis voilà, la photographie de ce film est magnifique. Et... Quelle autre palme d'or? Dis-nous, Nicolas, quelle autre palme d'or on peut être?
Ben, j'avais choisi aussi Paris, Texas, mais j'étais sûr que Louis, tu allais la choisir. En plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de palmes d'or que j'adore, même des films que j'aime plus que Paris, Texas, Apocalypse Now, par exemple, pour ne citer que lui. Mais ce film, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment le premier qui m'est venu à l'esprit.
J'avoue, j'ai pas la prétention d'être une palme d'or. Enfin, si j'avais la prétention d'être une palme d'or, je pense que je ne serais pas Paris, Texas, mais Barton Fink. Je pense que ça a été une palme d'or à Cannes à un moment où on s'y attendait pas forcément. Et je pense que j'ai beaucoup aimé ce film inattendu qui détache un peu et qui détonne un peu en tant que palme d'or, puisque c'est pas forcément un film très, très cannois, on va dire. Et en fait, c'était Roman Polanski qui était le président du Festival de Cannes cette année-là et qui avait choisi un film. Et j'ai trouvé ça très touchant, malgré tout ce qu'on peut penser de Roman Polanski. Il avait une bonne idée ce jour-là, qui était que, en fait, la Palme d'Or de Cannes devait être un film qui plaise à la plupart des gens et à la majorité des personnes, et du public notamment. Et c'était un peu le prix du public des Césars avant l'heure.
Il faut préciser aussi que depuis cette époque... Vu que Polanski avait tellement aimé ce film, on comprend parce que c'est un film qui est directement inspiré de sa propre filmographie à Polanski. Il lui avait décerné 3 prix, et depuis cette époque, c'est plus possible de décerner 3 prix à un seul et même film. Donc voilà, c'est un peu une marque assez importante aussi pour Cannes.
Du coup, si j'étais une palme d'or, je serais l'exception. Peut-être. C'est une bonne façon de conclure mon super top de portraits chinois. Donc je pense que si on était une filmothèque, on serait tous différents et on serait
et on se compléterait bien.
C'est ça, on serait complémentaires et on serait à l'image de la filmographie de Martin Scorsese, très protéiforme.
Eh bien, merci beaucoup pour ce portrait chinois, Adeline. Et on passe tout de suite à la dernière partie de l'émission pour une interview avec Benoît Basirico, avec qui je reviens sur le thème de la musique de film qui a été abordé lors de la précédente émission. Bonjour Benoît Basirico et merci de nous accorder cette interview. Vous êtes spécialiste de la musique au cinéma et notamment fondateur du site cinésique.fr. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, vous et votre parcours ?
Bonjour à tous, à toutes, et donc je suis Benoît Basirico en effet, je dirige le site cinésique.fr depuis 2005, que j'ai créé donc. Auparavant j'étais étudiant en cinéma. Et je faisais de la radio déjà, donc en fait je fais de la radio depuis 1998, voilà. C'est-à-dire mes années de fac, j'étais à la fois à la radio d'un côté et étudiant en cinéma de l'autre. Et donc ma passion pour la musique de film, elle est née à la radio, parce que je diffusais des musiques pendant que je parlais des films. Un peu comme d'ailleurs ce que vous faites, vous, j'imagine, sur Radio Campus Paris dans votre émission. Et donc au fur et à mesure de diffuser des musiques pour commenter les films, ce que France Inter d'ailleurs a rarement compris, parce qu'ils ont une émission de cinéma, mais ils diffusent jamais les musiques des films dont ils parlent. Ils préfèrent faire des pauses avec la playlist de France Inter. Bah, moi, quand j'avais mon émission de cinéma, il me paraissait inenvisageable, quand je diffusais de la musique, de diffuser autre chose que la musique des films dont je parlais. Et donc, mon intérêt pour la musique de film est venu à ce moment-là, et au fur et à mesure, je faisais même des spéciales compositeurs, des spéciales, voilà. Donc, la création de cinésique.fr, au départ, c'est né parce que je voulais une page web pour annoncer la programmation musicale de cette émission. Et donc, tout est né de là. De cette page annonçant la programmation, c'est devenu au fur et à mesure une base de données où je rentrais les compositeurs avec leur BO, et c'est devenu ce qu'est aujourd'hui Cinésique, c'est-à-dire à 50% Cinésique, c'est une base de données, et ensuite des articles, des interviews, de l'éditorial évidemment. Et donc j'étais étudiant en cinéma à Poitiers, je faisais cette émission de radio sur une radio associative. Voilà. Et ensuite, comme on dit, quand on est de région, on monte à Paris. Et donc, je suis monté à Paris pour travailler, comme tout étudiant qui termine ses études. Et donc, ça, c'est important de mentionner pour mon profil, parce que beaucoup de gens s'imaginent, en tant que spécialiste de musique de film, que je suis compositeur moi-même ou alors un musicologue. Pas du tout. Moi, je viens du cinéma. Donc, j'ai à la fois fait des études de cinéma, comme je viens de le dire. Mais quand je suis arrivé à Paris, mes premières armes, c'était à la fois un stage à la cinématographie française. J'étais responsable du site internet de la Cinémathèque française lorsqu'elle s'est installée à Bercy en 2005. Et donc la création de Cinésique est apparue au même moment que mon arrivée à la Cinémathèque en stage. Et ensuite j'ai travaillé à Studio Magazine à l'époque, qui est devenu après Studio Ciné Live, avant de disparaître complètement aujourd'hui. Et donc il y a eu Studio Magazine, où j'étais 2 ans et demi salarié là-bas, donc je faisais de la critique de films, et encore sur leur site internet, il y avait toujours en fait cette spécialité web qui me faisait travailler dans les endroits de cinéma, et donc j'ai eu des relations avec les attachés presse, avec les artistes, etc., qui a fait que ensuite, quand Studio Magazine est devenu Studio Ciné Live, ils ont viré pas mal de gens, dont moi, qui venais d'arriver 2 ans et demi avant, et donc ensuite j'ai vraiment développé Cinésique, et surtout développer ma spécialité musique de film. Et depuis donc 2009, je ne fais que ça, de cette spécialité musique de film, à travers des conférences, des cours, et puis le site.
Très bien, et d'ailleurs ça vous a amené à écrire un livre, c'est ça, récemment, en 2018 ?
Un livre sur la musique de film, compositeur et réalisateur au travail, et en fait, donc tout est une continuité en fait, c'est-à-dire que c'est un cheminement quelque part, où chaque chose provient de ce qui précède, et donc le livre, c'est une sorte de synthèse de 15 ans de Cinésique, c'est-à-dire que dedans, il y a beaucoup de propos, de témoignages que j'ai pu glaner en 15 ans de Cinésique, et donc c'est un peu le best-of de Cinésique, et moi, ce que je voulais, quand l'éditeur est venu me voir, je voulais qu'il y ait une version papier un peu de tous ces propos, parce que le web peut s'envoler, et donc là, il y a ce livre qui est un peu une synthèse des propos que tous les compositeurs et réalisateurs ont pu échanger sur ce sujet de la musique de film.
Sur Cinésique, justement, on peut retrouver pas mal d'articles d'actualité et vos coups de cœur aussi. J'ai vu que régulièrement vous publiez vos coups de cœur. Vu que cette année 2020 se termine, est-ce que vous avez des bandes originales qui vous ont marqué plus que d'autres ?
Je vais vous, d'ailleurs, avant de vous donner mes coups de cœur de l'année 2020, vous donner un petit scoop. C'est-à-dire que je suis en train de développer en fait des choses pour faire évoluer Cinésique et prochainement va être complètement remanié. Non seulement les pages compositeurs, mais aussi la page coup de cœur sur Cinésique, que j'appelle les incontournables. On pourra en fait sélectionner avec plusieurs filtres pour qu'apparaissent les incontournables, les coups de cœur, en fonction du genre de film, en fonction du style de musique, de l'année, du pays, même du choix de l'instrument utilisé. Il y aura vraiment des filtres très 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 pointus où on pourra vraiment faire afficher par année également les coups de cœur. Donc par exemple, on pourra faire afficher les meilleurs polars des années 70, enfin les meilleures musiques de films policiers des années 70 italiens, voilà, par exemple. et donc pour l'année 2020, vu que ce filtre n'existe pas encore, je ne peux pas encore sélectionner 2020 coup de cœur de l'année. Donc c'est moi-même qui dois me souvenir ou alors voir un peu dans les dernières choses que j'ai mentionnées comme coup de cœur. Alors c'est très compliqué la période actuelle, notamment là parce que en dehors de la musique de film, je collabore aussi à des sites internet sur le cinéma où je fais des critiques encore. Hein, malgré tout, cette carte cinéma n'a pas disparu. Et on me demande là, il y a une heure, j'ai reçu un mail où on me demande mon top 10 des films de l'année. Contrairement à auparavant où c'était très simple, hein, 10 films sortis dans les salles. Donc là, la question c'est, est-ce qu'on inclut les plateformes ? Mais pour ce qui est des films sortis en salle, cette année a été très riche côté films d'animation. Je peux par exemple en citer 2 films d'animation où la musique était très très bien. Il y a Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, sorti je crois au mois de octobre, avant le confinement, septembre ou octobre. Et donc Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, c'est Florencia Di Concilio qui a écrit la partition, une des rares compositrices, d'ailleurs ça c'était aussi une question, la musique de film est le corps de métier dans le cinéma qui a le moins de femmes présentes. Et donc là c'est une compositrice qui a finalement écrit la musique de cette jeune femme dans l'Ouest américain. Donc c'est également un film sur l'émancipation féminine au sein d'un western. Et cette partition qu'a utilisé le banjo, la guitare, quelque chose de très western. Et en même temps un orchestre. Donc ça, voilà, c'est un premier choix pour 2020. Et le deuxième choix pour l'animation, c'est sorti en début d'année. Donc j'ai noté Marona, l'extraordinaire voyage de Marona, voilà, musique de Pablo Pico, avec un petit chien que l'on suit pendant tout le trajet du film, et ça aussi c'est une superbe partition. C'est l'animation qui vaut ces deux belles partitions. Après je peux en citer deux autres. Il y a Été 85, le film de François Ozon, avec la musique de Jean-Benoît Dunkel, hein, qui est le double l'un des deux de R. Donc une partition à la fois électronique, très sensuelle, très délicate, très solaire. Voilà pour ce Été 85. Et puis ensuite, je peux aussi citer, mais là je cite que la France parce que je regarde ce que j'ai noté pour la France, mais l'autre pour la France, ce serait la BO d'un film qui est sorti deux jours dans les salles, c'est Garçon Chiffon de Nicolas Maury, qui est sorti juste avant le reconfinement là, donc il n'a pas pu ressortir malheureusement le 16 décembre, donc espérons qu'en 2021 il ressorte. Garçon Chiffon, donc la musique d'Olivier Marguery, que j'avais déjà adoré pour Diamant Noir d'Arthur Harari, et là donc il filme ce premier film de Nicolas Maury avec une musique très délicate, fantasque aussi, à l'image de ce personnage, hein, de Nicolas Maury dans ce film, fantasque et tendre. Donc il y a un mélange de tendresse et d'ironie dans la partition de Olivier Marguery. Voilà pour la France, je vous laisse parler, mais je pourrais vous citer aussi les États-Unis ou l'étranger, bien sûr.
J'ai vu aussi que pour récemment, dans votre coup de cœur, il y avait la musique de Mank. C'est quand même un film dont la musique est très importante et a été composée, si je ne me trompe pas, avec des instruments d'époque, c'est bien ça?
Alors, Trent Reznor et Atticus Ross, donc ils viennent vraiment du groupe Nine Inch Nails, plutôt du rock industriel. Trent Reznor et Atticus Ross ont pratiqué l'électronique pour David Fincher sur The Social Network, pour lequel ils ont eu d'ailleurs l'Oscar de la meilleure musique de film. Et donc là, ils retrouvent leur réalisateur fétiche David Fincher. Et là, ce qui est étonnant, donc c'est qu'à la fois on retrouve le piano mélancolique, le côté un peu lancinant de leur musique, le côté un peu lugubre et sombre, on le retrouve. Et à la fois, ils ont fait beaucoup de morceaux jazz. Donc ça, c'est très étonnant de retrouver Trent Reznor, Atticus Ross dans le jazz. Donc c'est pas tant qu'ils ont utilisé des instruments d'époque, on est dans le Hollywood des années 30, c'est en fait le fait d'utiliser le jazz à la manière du jazz de l'époque, en fait. Et donc c'est très étonnant que Trent Reznor, Atticus Ross, pour la première fois, en fait, vont faire le caméléon. L'une des caractéristiques du compositeur de musique de film, en fait, c'est d'être un peu caméléon, versatile, savoir s'adapter aux univers. Et là, pour la première fois, ils n'ont pas fait leur style habituel. Ils ont épousé un peu le chemin du Hollywood des années 30 dans le jazz. Et c'est assez délectable. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Voilà.
Et en parlant de compositeur versatile, en tout cas très productif, 2020 a aussi été l'année de la disparition du grand Ennio Morricone. Et cet été, vous avez consacré, sur Cinésique, trois podcasts d'une heure chacun répartis en trois grandes thématiques pour le compositeur. Et du coup, j'aimerais savoir un peu pour conclure cette interview s'il y a une musique de Morricone que vous aimeriez faire découvrir à nos auditeurs, une musique peut-être un peu moins connue.
Alors l'œuvre de Morricone est tellement riche, tellement évidemment intense que le choix est infini. Alors donc c'est pas forcément le film que je préfère. Là, j'aime bien en général quand j'aime une musique, c'est parce que j'aime aussi le film. J'aime pas dissocier forcément film et musique, mais là je vais le faire pour Morricone parce que évidemment les films que je préfère de Morricone, c'est Il était une fois dans l'Ouest, c'est les films de Sergio Leone, les films de Palma, les Mission par exemple, voilà. Mais pour ce qui est de la musique que j'aurais envie de recommander, c'est une musique un peu patchwork, un peu la synthèse de tout ce dont est capable Morricone. C'est Colorado, le titre en français, un western de Sergio Solima. Le titre en italien c'est La Rezza dei Conti, un film de 1966, hein, donc c'est la grande période de Morricone et du western italien. C'est deux ans avant Il est une fois dans l'Ouest. Alors pourquoi cette partition? C'est parce que justement, même si pour le film c'est pas forcément le chef-d'œuvre et le meilleur film, mais la musique, il y a tout ce dont est capable Morricone en termes d'instrumentation. Il y a du sifflement, il y a de la voix humaine, il y a des claquements de fouet, il y a des sons insolites, comme il aime bien faire, utiliser des instruments inédits, des instruments nouveaux. Il y a aussi le thème, mais là aussi la dissonance, la mélodie, la dissonance. Il y a tout vraiment ce qui définit Morricone qui se retrouve dans cette partition, qui est à la fois homogène, mais en même temps très très éclatée, en fait, avec plein de folie. Voilà, c'est une BO très folle.
Eh bien, merci beaucoup Benoît Basirico. Et justement, cette musique de Colorado, nous allons l'entendre tout de suite. Et la séance du dimanche, c'est fini pour aujourd'hui. On espère encore une fois que l'émission vous a plu et vous a donné envie de découvrir de nombreux films. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, ni à vous abonner sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast pour retrouver nos précédentes émissions et ne pas rater les suivantes. Nous vous souhaitons une excellente année 2021, riche en films si possible, et rendez-vous le 7 février prochain pour un nouvel épisode de la séance du dimanche. Au revoir.
Salut.